Merci Seigneur pour cette joie que tu mets dans nos cœurs de se savoir que nous sommes tes enfants Seigneur et tu as fait de nous ton peuple Seigneur. Merci parce que tu ne nous as pas laissés seuls mais tu nous as laissé ta parole qui est une boussole pour nos vies. Nous te prions dans ta grâce de nous aider à la lire, de la comprendre et de la vivre Seigneur. Seigneur nous avons chanté, ouvre les yeux de nos cœurs Seigneur, les yeux spirituels afin que nous puissions voir les choses au travers de tes yeux. Afin que nous puissions les vivre, les mettre en pratique et faire ta volonté, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à rester fidèle à ta parole, Seigneur, et à être un instrument de tes mains, Seigneur. Et aide-nous à être attentifs à ce que tu as à nous dire dans ta parole, afin de nous aider d'aller de progrès en progrès, et de parvenir à cette maturité spirituelle. C'est à quoi tu nous as appelés, Seigneur. Aide chacun d'entre nous dans notre marche et continue ton œuvre en chacun de nous. Pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Alors, ce matin, je vous propose la lecture dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10. Mais avant de lire notre texte, j'aimerais quand même vous présenter quelques éléments du contexte dans les deux précédents chapitres, le 8 et le 9. Juste pour rappel, la lettre aux Hébreux est adressée aux Juifs qui, à l'époque, hésitaient entre Jésus et la justice liée à l'obéissance à la loi de Moïse comme un moyen de salut. Et non pas comme une ombre, comme une expression temporaire qui s'était complètement accomplie avec la venue de Jésus, le Messie. Donc ils étaient un peu entre les deux, ils hésitaient. Et cette lettre rappelle un peu certaines choses pour leur rappeler ce sur quoi doit être basée leur foi. Et dans les chapitres 8 et 9, vous allez le lire, vous verrez qu'il nous est rappelé que nous sommes rentrés dans la nouvelle alliance et au travers de cette nouvelle alliance, le seul sacrifice de Christ est parfait et suffisant, et ce sacrifice dépasse largement l'ancienne alliance au cours desquelles il y avait des sacrifices, des taureaux, des boucs par le prêtre. Voilà un peu les éléments du contexte. Alors, que nous dit cette lettre? La lettre se trouve dans Hébreux, chapitre 10, et je vous propose de lire les versets 19 à 21. Le texte, il est affiché. Hébreux, chapitre 10, je vais lire versets 19 à 25. C'est bon? Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison des dieux. Approchons-nous donc d'un cœur sincère avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise confiance et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement et c'est là d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Voilà nos textes du jour et il y a beaucoup d'enseignements tirés de ce texte et le titre que je vous propose est celui-ci, « La fermeté de la foi dans la nouvelle alliance ». Et je vous propose un plan en trois points. Le premier point, nous allons voir que nous sommes encouragés à rentrer dans la présence de Dieu avec confiance. Le deuxième point, ce serait « Nous avons une espérance vivante et ce qui implique nous encourage à tenir ferme dans la foi ». Et enfin, nous verrons quelle est notre part. Quel est notre engagement, notre implication ici, dans une église locale? Passons à notre premier point. Entrer dans la présence de Dieu avec confiance. J'aime bien cette image d'un auteur qui disait que Jésus était le pont entre le ciel et la terre. Le lien par excellence entre Dieu et l'homme. Et ce lien a été rendu possible grâce à la venue de Jésus, au sacrifice de Jésus sur la croix et nous l'avons pris la Sainte Cène pour se le rappeler. Autrement dit, Jésus, par son sacrifice, il a déchiré le voile qui nous séparait de Dieu. Vous vous rappelez peut-être dans l'ancienne alliance, seul le prêtre avait accès au lieu très saint. Il faisait des sacrifices pour ses propres péchés, il faisait des sacrifices pour le péché des peuples. Et avec la venue de Jésus, il a ouvert un nouveau chemin qui nous donne aujourd'hui accès au Père Céleste. Et la lettre aux Hébreux que nous avons lue nous encourage à avoir cette confiance et nous approcher de Dieu avec cette pleine confiance. Mais cette confiance ne dépend pas de notre mérite ni de nos actes, mais uniquement par l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir, mais comment on s'approche de Dieu? Le texte nous dit ceci. Avec quelle attitude doit-on s'approcher de Dieu? Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. On peut en tirer deux éléments. Le premier élément, l'attitude à laquelle on s'approche de Dieu, c'est une attitude de foi. Mais c'est quoi la foi? Hébreux nous le rappelle. Hébreux 11, verset 1 à 2 nous dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et le verset 2 nous dit, c'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Ils n'ont pas compté sur leur propre force, mais ils ont eu foi en Dieu. Quand on dit à Abraham, quitte tes parents, va là où je vais t'envoyer, il a marché par la foi. Il ne savait pas où aller, mais il a eu foi en Dieu. Et cette foi n'était pas vaine. Quand vous regardez la suite, vous connaissez la suite de l'histoire. La foi est indispensable pour la vie chrétienne. Pourquoi c'est indispensable? Voici ce que nous dit Hébreux. Chapitre 11, verset 6, un peu plus loin. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ça veut dire qu'on s'approche de Dieu non pas avec des doutes, mais avec une attitude de foi, avec une pleine confiance, parce que nous savons qu'il est le Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses. Il écoute nos prières, il répond à nos prières en son temps et selon sa volonté. Voilà l'attitude à laquelle nous devons nous approcher de Dieu. Et le deuxième élément qui ressort de ce texte, c'est la récompense. Waouh! La récompense, ça motive. Hein. Alors, je me rappelle, ma fille, elle faisait le brevet. Je lui ai dit, si tu as ton brevet, tu auras un téléphone. Juste après le brevet, et ça n'a pas hésité, hein. Moi, je me suis dit, bon, juillet, août, ça va, j'ai le temps. Mais non, hein. Juste après le brevet, je lui ai dit, papa, tu avais promis. Et là, elle me dit, iPhone 15. Elle dit, ouh! En fait, je ne lui ai pas annoncé le budget. J'ai dit, non, mais il y a un budget limité. Elle dit, 15, ça fait... On va manger les pâtes tous les jours. La récompense, ça encourage. Hein. Je ferme la parenthèse. Pour revenir à notre texte, c'est que ça ne veut pas dire qu'on s'approche de Dieu uniquement parce qu'on obtient quelque chose. Dieu attend de nous que nous soyons des véritables adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Nous le savons. Mais aussi, Dieu bénit ceux qui écoutent sa parole, ceux qui lui obéissent et ceux qui lui restent fidèles. Vous pouvez lire des Écritures et ça se voit dans le texte de la parole de Dieu. Nous avons vu, première attitude, attitude de foi. La deuxième attitude, nous devons nous approcher de Dieu, le cœur purifié. Il n'y a rien de pire que de ressasser le passé. Je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec certains, mais parfois c'est lassant. Ils vivent qu'au passé, hein, dans la culpabilité. Mes amis, en tant que chrétiens, on doit se rappeler que le sacrifice de Christ, il est suffisant et parfait pour ôter nos péchés, pour purifier nos cœurs et nous permettre d'avoir le cœur léger, une conscience purifiée parce qu'on sait qu'on a été pardonné par Christ. Et ça, ça doit nous encourager à avoir cette relation de paix avec notre Père Céleste. Et vous avez vu dans le texte, on parle du cœur purifié et du cœur lavé. Ces deux rapports montrent que la transformation de Christ concerne notre être entier, notre intérieur, notre cœur et notre extérieur. Voilà les deux attitudes qu'on doit avoir lorsqu'on s'approche de Dieu. Et un autre texte qui se trouve dans 9, verset 24, qui nous dit ceci. En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Christ s'est présenté pour nous devant Dieu. Quelle joie et quelle grâce de se le rappeler. Nous avons cette possibilité aujourd'hui de nous adresser au Père Céleste avec une pleine confiance, avec une conscience pure et un cœur rempli de paix. Parce que nous savons que Christ, par le sacrifice de Christ, la barrière qui nous séparait de Dieu a été brisée. Et nous avons cette joie aujourd'hui d'avoir cet accès au Père Céleste grâce à notre foi en Jésus-Christ. Et nous avons un Dieu relationnel. Il ne s'agit pas d'une religion. Lorsqu'on s'approche de Dieu avec une bonne attitude, Dieu s'approche de nous, mes amis. Et on vit cette relation avec Dieu. Et je vous propose de voir un texte sur David qui a expérimenté cette relation avec Dieu. Regardons comme il écrit dans le psaume 139, verset 5. Et il est très parlant. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je m'élève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voix te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Waouh ! Quelle proximité ! Quelle joie de savoir que Dieu, Jérémie a dit tout à l'heure, et parfois on a l'impression que Dieu n'est pas présent, mais Dieu il est présent dans nos vies. Quelle joie de se le rappeler qu'il est notre avant-garde, il est notre art, il est devant nous, il nous entoure, il est présent au quotidien dans notre vie. Et c'est important de se le rappeler. Passons à notre deuxième point. Une espérance vivante. Et le verset 23 de la lettre aux Hébreux, chapitre 10, je vous propose de lire dans la traduction de la Bible Semeur. Voici ce qui est dit. Hébreux, chapitre 10, verset 23. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Le mot-clé ici, rester attaché. On reste attaché à quelque chose qui a de la valeur. Certains restent attachés à leur voiture. Leur voiture, parce qu'attention, une moindre égratignure, mais tu fais tout un problème. Hein. Touche pas à sa voiture. Hein. Certains sont attachés à leur maison, ils en prennent soin, ok. Parfois, on s'attache sur des choses futiles. Hein. Moi, je m'attachais parfois à une chaussure que j'aimais porter. Mais ma femme, elle est spécialiste pour voir les défauts. Elle me dit, mais ta chaussure, elle a des trous, hein. Faut la laisser, quoi. Ou parfois, quelque chose qui te plaît, mais bon, ma femme, elle est là pour... Voilà, c'est aussi ça l'amour, hein. Veiller les uns sur les autres, il paraît. Et là, elle me dit, je prends soin de toi. Oui, ok. Ça fait partie du paquet de l'amour. On s'attache à des choses qui nous intéressent. C'est vrai. Et là, en tant que chrétien, on s'attache à cette espérance. Pourquoi c'est important de s'attacher à cette espérance? C'est parce que nous avons vu que nous avons accès au Père Céleste. Et cela implique en nous, en tant que chrétiens, une responsabilité de tenir ferme dans la foi. Pourquoi on doit tenir ferme? Parce que nous savons que nous avons une espérance vivante en Christ. Christ, il est mort, il est ressuscité. Il a ouvert un autre chemin, un chemin nouveau, vivant pour notre propre espérance. Mes amis, si on perd de vue cette espérance, si on oublie ça, notre foi ne sert à rien. En fait, on vient perdre notre temps le dimanche matin ici. On est les plus à plaindre. Hein. Les autres, ils vivent leur vie, hein, tranquille. Nous, dimanche matin, on est là. On perd le temps si on perd de vue cette espérance. Et l'apôtre Paul le dit, c'est très bien. Je vous invite à lire comment il le dit, lui. Regardons comment l'apôtre Paul le dit. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Verset 19. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Si le texte s'arrête là, on est foutu. Hein. Mais regardons ensuite le contraste au verset 20. Comment il continue son argument? Mais, en réalité, Christ est ressuscité. Précédant ainsi ceux qui sont morts, en effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Adam. Waouh ! En Christ, pardon. Ah, c'est bien, vous suivez. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Waouh ! Quel argument ! Et c'est intéressant de se le rappeler, c'est des vérités bibliques qu'il faut marquer. Parce que si nous vivons que sous cette vie terrestre, métro, boulot, dodo, ma petite vie tranquille, sans avoir cette espérance de l'éternité, ben autant vivre comme tout le monde. Puisque, comme des non-croyants, ben, ils vivent tout le monde. Après la mort, on n'est pas pardonné, on passe au jugement, direct, l'enfer. D'ailleurs, on ne sait même pas où est-ce qu'on va après la mort, hein, comme des non-croyants. Mais ça, c'est des non-croyants qui se le disent. Le contraste au verset 20 nous rappelle que, mes amis, Christ est bel et bien mort et ressuscité. Et vous pouvez lire des textes dans la parole de Dieu qui nous rappellent qu'après la résurrection de Christ, Christ a été vu par une foule de témoins qui confirment qu'il est bien ressuscité. Et Christ, il est bien vivant, il est monté au ciel, nous prépare une place. Mais en attendant, nous devons tenir ferme. Et on a chanté tout à l'heure, je continue de tenir ferme jusqu'au moment où je verrai Christ. Je ne sais pas comment ça a été formulé. Mais ça nous encourage de se le rappeler. Christ est vivant et nous devons tenir ferme dans la foi. Mais nous ne sommes pas seuls parce que Jésus-Christ a promis d'être avec nous, pas une seule journée, hein. Tous les jours, Matthieu 28 nous le rappelle. Et le Saint-Esprit est là au quotidien pour nous aider dans nos faiblesses. Il faut se le rappeler. Et il y a un autre texte qui nous encourage dans Hébreux. Regardons Hébreux 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir en nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Mes amis, nous ne sommes pas seuls. Christ est avec nous et nous encourage. Quelle est notre part? C'est la dernière partie. Quel est notre engagement dans l'église locale? Les jeunes, hein, je pense, un clé d'œil aux jeunes, hein. Le texte nous encourage à veiller. Pourquoi faut-il veiller? Jésus nous encourage à veiller. Voici ce qu'il dit dans Matthieu 26, verset 41. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Il y a un deuxième élément qui nous encourage, qui doit susciter notre vigilance, c'est que le lion, notre ennemi, le diable, il rôde. Et personne n'a rien. Regardez ce que nous dit 1 Pierre 5, 8 à 9. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Veillez les uns sur les autres. Nous sommes appelés à cultiver notre vigilance et à ne pas nous laisser distraire par le change du monde. en gardant cette connexion avec Dieu. Et je vous rappelle que personne n'est à l'abri. Si on est distrait, on peut tomber facilement dans une sécheresse spirituelle, on n'est plus connecté, et le diable fait son œuvre dans nos vies. Hein, et on voit des dégâts hein, dans les vies, même dans les vies des couples. Et c'est compliqué. Au-delà de cette discipline personnelle, nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres. Et ça peut se faire à l'église, hein, les réunions de prière les mardis. On est là aussi pour s'encourager, pour prier les uns sur les autres. Ça peut se faire à d'autres moments que l'église organise. Ça peut se faire en dehors de l'église, dans les cellules des maisons. Ça peut se faire aussi par des appels téléphoniques, par des visites. On veille les uns pour les autres. Je n'oublie pas les couples. Hein. Parfois, c'est compliqué dans les couples. Hein. Mais on est là aussi pour veiller à la santé spirituelle de son conjoint ou de sa conjointe. Tu sens qu'il traverse un moment de découragement. Tu dis, tiens, viens, on va prier. Et ça aussi, c'est des moments à vivre en couple. On veille les uns sur les autres. À l'église, dans nos couples. Et c'est hyper important d'avoir cette attitude. Passons au dernier point. N'abandonnons pas notre assemblée. Là, je sais que je vais perdre des amis. Mais je voulais quand même préciser dans le contexte. Il y a l'Épître aux Hébreux. N'abandonnons pas notre assemblée. Dans le contexte de l'époque, c'est que certains frères et sœurs, à cause de la persécution, ils avaient peur d'aller dans une église et se retrouver ensemble parce qu'ils étaient persécutés. Donc certains préféraient rester chez eux, ils n'allaient plus dans l'assemblée. Et en lisant ce texte, je me suis dit, mais qu'en est-il pour nous aujourd'hui, au XXe siècle? Pour quelles raisons, parfois, nous abandonnons les assemblées? Je précise quand même que je n'ai pas l'intention de faire un procès. Je n'ai pas l'intention de juger ni de comparer les églises. Par contre, lorsqu'on voit ce qui se passe autour de nous, on peut quand même se demander que parfois le choix d'aller dans telle ou telle église, c'est faire sous des critères qui interrogent. Je vous fais trois éléments que j'entends souvent avec l'idée que chacun de nous se place devant Dieu et se rendre compte de sa responsabilité et se pose la question de savoir, Seigneur, comment je peux te servir dans une église locale là où tu m'as placé. Et c'est ma prière. Chacun est libre d'aller, de fréquenter l'église de son choix. Il n'y a pas de problème. Par contre, ma prière est que le choix se fasse, ce choix soit guidé par le désir de servir Dieu. Aujourd'hui, j'ai la grâce d'être là devant vous, de prêcher. Demain, je fais déménager, je ne vais pas aller dans une autre église. Si le ministère où je suis appelé à faire disponible sur le ménage, je le ferai avec plaisir. Mike nous l'a rappelé, on n'est pas le centre du monde. Hein. Le centre, c'est Jésus. Hein. On n'est que des serviteurs. Dieu peut se passer de moi, de toi. Demain, il choisirait quelqu'un d'autre. Il appelle ce qu'il veut. Mais ayons cette humilité de savoir quelle est notre place et qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on est dans une église locale. J'entends plusieurs choses. La première des choses, pas de pasteur à Moissy. OK, c'est vrai, il n'y a pas de pasteur. Hein. On a emménagé ici à Moissy en août 2018. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de pasteur. Mais c'était bien avant. On ne fait pas la comptabilité. Ce n'est pas ça le plus important. J'entends souvent ça. La question que je me pose, est-ce que Dieu n'a pas donné des dons à son Église pour qu'elle continue d'exister? Est-ce que la parole de Dieu n'est pas enseignée? Est-ce qu'il n'y a pas l'amour fraternel pour vivre l'amour à l'église de Moissy? Je pose juste des questions, chacun reprendra et chacun va se positionner. Première question. Deuxième question, j'entends souvent, il n'y a pas une bonne ambiance à Moissy. Bon, les jeunes diraient que la musique n'est pas très stylée, pas très tendance. OK, pas de problème. Mais est-ce qu'un chrétien peut grandir spirituellement uniquement avec une bonne ambiance, une bonne musique? Est-ce qu'il n'a pas aussi besoin d'être enseigné pour grandir et devenir mature dans sa foi? À chacun de répondre à la question. Vous savez qu'au moins que la vie chrétienne n'est pas rose. Hein. Il y a des moments où c'est compliqué. Si ta vie s'arrête qu'à la louange, OK. Mais lorsqu'il n'y aura plus de musique, lorsqu'il n'y aura plus la bonne ambiance, qu'est-ce qui restera-t-il? Le vide? Puisque tu vis que sous la louange. Et ça interroge. Est-ce qu'on a compris aussi l'importance d'être dans une petite église à taille humaine où tout le monde se connaît, où quand un tel n'est pas présent, on s'inquiète, on s'appelle, on prend ses nouvelles? À chacun de réfléchir. Et autre question qu'on peut se poser, est-ce que je vais dans une église simplement pour assister, je finis, je rentre chez moi, ou est-ce que Dieu t'a aussi donné des dons pour que tu puisses servir dans une église? À chacun de réfléchir à ces questions. Personnellement, pour mes ados, en général, je leur dis, écoutez, à moi si vous avez la chance de prier, de louer Dieu, de chanter. Parfois, on fait des fausses notes. C'est pas grave. Dieu voit le cœur. Mais dans les méga-churches, dans les églises de 3 400 personnes, le casting n'est pas le même. C'est la perfection. C'est les professionnels qui chantent. Donc, c'est pas sûr qu'on te prenne là-bas pour chanter. À chacun de réfléchir. Je veux juste responsabiliser. Et chacun doit trouver sa place. Et ce qui importe, ce n'est pas la perfection, mais de servir Dieu avec la joie du cœur, avec la simplicité, avec les dons. On n'est pas parfait. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on est une église parfaite. Ce n'est pas grave. Mais je bénis le Seigneur parce que je vois autour de moi des frères et sœurs qui sont fidèles et qui ont compris ce que c'est que servir Dieu. Et qui donnent de leur temps. Personne ne paye à temps plein ici. On travaille tous, qui prennent du temps pour préparer des choses, pour venir enseigner, pour encourager. Waouh! Et c'est ça l'Église. L'Église, c'est ça. Et Dieu donne des dons à son Église pour aller de l'avant. Troisième élément que j'entends pour terminer, c'est l'après-Covid. Je préfère rester à la maison, devant la télé, YouTube, je suis les cultes en ligne. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que quand ça ne va pas, ce n'est pas Internet qui va prier pour toi. Tu as besoin d'un frère et sœur pour t'encourager. Parfois, c'est compliqué. Tu as besoin de t'encourager avec un frère et sœur. C'est la réalité. Internet, c'est bien. OK, mais quand ça ne va pas, on a besoin d'un frère. Il y a des moments où c'est compliqué. On s'encourage. Donc, ça veut dire que la relation fraternelle est indispensable pour ne pas s'isoler et pour ne pas se sentir parfois découragé. Et la stratégie du diable est simple. On t'isole. Dès qu'il y a un problème, tu es une proie facile. Quand vous êtes nombreux à intercéder et prier, vous formez une barrière et Dieu vous protège en ce moment-là. C'est important de se le rappeler. Je vais conclure. Cette lettre nous encourage à tenir ferme dans la foi, à veiller les uns sur les autres et à se rappeler de cette espérance que nous avons en Jésus-Christ. Et voici le dernier verset pour la fin. C'est l'apôtre Paul qui dit. Hébreux 13, verset 13 nous dit quoi? Maintenant donc, ces trois choses restent. La foi en Dieu, l'espérance, cette espérance de l'éternité. Un jour, nous serons au ciel, nous verrons Dieu et nous vivrons dans l'éternité, dans la présence de notre Dieu. Et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Je propose de prier pour terminer. Éternel notre Dieu, merci parce que dans ta parole, tu nous rappelles des vérités essentielles. Merci parce que tu nous as aimés le premier et tu as déployé un plan pour nous réconcilier avec toi, Seigneur. Aide-nous à vivre ces vérités en nous se le rappeler. Merci parce que ta parole nous reprend aussi. Et nous te prions dans ta grâce de nous aider à trouver notre place là où tu nous places. À te servir humblement et fidèlement, Seigneur. Nous te prions afin que notre vie te rende gloire, Seigneur. Nous te prions que tu puisses continuer à bâtir ton Église, Seigneur. Tu continues à nous orienter, nous diriger dans tes voies, Seigneur. Et nous prions que ton Esprit Saint soit à l'œuvre dans chacune de nos vies, Seigneur, afin que nous puissions vivre des relations fraternelles authentiques, afin que nos vies te glorifient, Seigneur, afin que nous puissions tenir ferme, Seigneur, même dans l'adversité. Merci parce que nous ne sommes pas seuls, mais ton Esprit Saint nous aide. Merci Jésus parce que tu intercèdes pour nous également. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et pour ta seule gloire. Amen.